Festival international Nuit d'Afrique vous invite à sa 37e édition. Rendez-vous du 11 au 23 juillet à Montréal pour un voyage musical planétaire. Des centaines d'artistes d'Afrique, des Antilles et d'Amérique latine viennent vous ambiancer en salle et en plein air. Ne manquez pas le rock zangoma d'Elias, le reggae mandingue de Kabe Konaté, la rencontre de l'Inde et de l'Afrique de l'Ouest avec Lavanya et bien plus encore. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
Cet été, le Festival Frima revient pour sa 18e édition. Du 20 au 22 juillet, venez voir performer vos artistes préférés à la Cité de l'art de Val-d'Or. Cœur de Pirate, Tibéliveau, Gros Méné, Shreeze et plusieurs autres artistes de la relève. Ce festival vous invite à découvrir des artistes dans une ambiance intime, chaleureuse et festive. Pour la programmation complète et la billetterie, rendez-vous sur frima.qc.ca. Du 20 au 22 juillet, on se voit au Frima!
Le Festival Montréal en art est de retour dans le village. Du 28 juin au 10 juillet, venez découvrir plus de 100 artistes qui animeront la rue Sainte-Catherine pour votre plus grand plaisir. Art en direct, activités participatives, peinture sur meubles, portraitistes, galeries pour enfants, conférences et aussi une parade unique en son genre. Venez faire le plein d'expériences artistiques et rendez-vous en ligne sur mtlenart.com pour découvrir la programmation. Du 28 juin au 10 juillet, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.
Hey, salut, c'est Gabouchard, vous êtes à l'écoute de choc.ca.
J'ai le goût de finir à même place que toi. Finir à même place que toi. Ce cool se voir, ce cool se voir.
Excellent mercredi à tous, vous écoutez le palmarès sur le choc.ca, mon nom est Estelle Grignon, directrice musicale de la station et votre animatrice pour la prochaine heure. Émissions, c'est assez simple, je vous dirais, cet été, les émissions du palmarès, comme vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes des habitués de cette émission-ci. On a moins d'entrevues, c'est un peu plus mollo avec l'été, avec les festivals, de toute façon, soyez assurés que Choc va couvrir les artistes, on va leur parler aux gens qui vont faire de la musique dans les prochaines semaines dans les différents festivals. J'ai d'ailleurs à cet effet eu la chance d'aller au festival de la chanson de Tadoussac il n'y a pas très longtemps, dans une semaine et un jour, dans 8 jours d'ailleurs. Je vais être de retour sur la route pour aller au festival à Chicoutimi qui s'intitule La Noce avec ma bonne amie, ma journaliste, la bénévole de station Camélia Lucier Gonzalez. On va faire des entrevues avec plein d'artistes, dont avec La Sécurité, qui est un des groupes qu'on va écouter dans la prochaine heure. Voilà, parce que tout est dans tout. Et cette fois-ci, je ne suis pas seul, non, pour faire de la radio aujourd'hui pendant une heure. J'ai de l'aide. Allô, Léla?
Allô, Estelle, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Oui, ça va bien, merci.
Est-ce que tu veux te présenter un peu? Parce que je pense pas que les gens savent exactement ce que tu fais en ce moment à Choc.
Non, c'est vrai que je suis assez nouvelle dans le décor de Choc. En fait, moi, je suis assistante aux communications, donc j'assiste Mireille, qui est présentement au Portugal.
Oui.
Moi, je suis sur place, elle est à distance, c'est la tour de contrôle, je suis astronaute, on va dire. Fait que oui, je viens de me comparer à David Saint-Jacques, c'est incroyable. Mais c'est ça, j'aime vraiment ça, puis je m'occupe des communications en général de Choc, les réseaux sociaux, les publicités, etc.
Parfait, voilà, donc si vous avez entendu des publicités au début de l'émission, c'est parce que Léla les a programmées.
Voilà.
Les a créés, les a enregistrés, les a montés, mis sa voix sur l'une d'entre elles.
Devinez laquelle.
Voilà. Je vous invite à, si vous nous écoutez en rediffusion, si vous écoutez en balado, juste de recommencer le podcast au début, écouter les 3 publicités et tenter d'identifier celle avec la voix de Léla. Moi, je sais c'est laquelle. En tout cas, parce que oui, voilà, il y a des gens qui nous écoutent en direct sur lechoc.ca. Il y a des gens qui nous écoutent plutôt sur Spotify, sur Apple Music, sur Google Podcast et en différé, en fait, sur le site de Choc. On peut y retrouver tous les balados qui sont enregistrés ici à la station. Allez voir ça, le site, il est beau. Ça fait un an maintenant qu'on a cette plateforme-là qui ressemble à ce que c'est en ce moment et j'en suis très heureuse parce qu'il est très beau, le nouveau site web, beaucoup plus que l'ancien. Voilà. Et nous, on va commencer tout de suite en musique en vous présentant justement le meilleur de ce qui se passe en ce moment. Qu'est-ce qui est cool aujourd'hui en cette fin du mois de juin. Journée un peu grise, un peu pluvieuse, mais honnêtement, avec tous les feux de forêt et tout ce qui se passe, je pense que ce sont de bonnes nouvelles là, qu'on a eu quelques averses. On va écouter de la musique, entre autres, du groupe, avec des origines très punk hardcore, qui est Military Gun. Et je spécifie bien que ce sont des origines hardcore et c'est pas un groupe de hardcore. Autrement dit, vous allez l'entendre, on est plus dans un rock alternatif, mais il y a des petits morceaux, des petites influences, des petites traces là, d'un passé de gros, gros punk ben suant au travers de tout ça. On entend entre autres dans la voix du chanteur du groupe. Un de mes gros coups de cœur vraiment cette semaine, et je ne suis pas la seule, pour l'album Life Under the Gun. Je sais que c'était nommé album de la semaine chez Stereo Gum, qui est un blog que je consulte régulièrement. Beaucoup de bonnes critiques pour cet album. Et puis, ben voilà, c'est une des nouvelles entrées cette semaine au palmarès. Mais juste avant, très très heureuse de vous faire découvrir le groupe Blanc Dehors, projet d'ici, de chez nous, de notre petit Québec de fromage en crotte. Blanc Dehors, donc, il va paraître l'album qui s'appelle simplement Blanc Dehors. Et c'est particulier comme style de musique parce que on a eu le droit quand même souvent là, dans les dernières années à des groupes qui sont très ancrés dans les années 80. L'influence ouais. des années 80, mais tu sais, on dirait que l'image qu'on se fait aujourd'hui des années 80, et ce qu'on retrouve justement beaucoup dans les artistes qui sont rétro, c'est beaucoup la musique très, très, très new wave, très clavier. D'ailleurs, on va écouter La Sécurité tantôt, puis il y en a un peu de ça dans La Sécurité, là, des influences un peu Devo, un peu Gary Numan, des choses un peu comme ça. Mais là, on va vraiment dans quelque chose de différent. On va plus dans l'espèce de adult rock, de soft rock, un peu gothique aussi au travers. Ce sont des influences des années 80 qu'on entend peu aujourd'hui, puis quelque chose d'un peu presque kitsch, on dirait, au travers de tout ça. La voix, je sais pas comment la décrire vraiment, mais il y a quelque chose de très, très, très nostalgique, on dirait, dans cette voix-là. Même si, ben non, c'est pas un album qui est sorti en 1986, mais bien en 2023. C'est sorti il y a même pas 2 semaines, en fait, cet album-là de Blanc Dehors. Très inspiré par Siouxsie and the Banshee, entre autres. Un peu The Cure aussi, au travers. Mais il y a quelque chose de très... Il y a quelque chose de particulier. Il y a un timbre que... Écoute, j'ai de la misère à décrire avec des mots tout ça. Hein? Fait que je pense que la meilleure chose à faire pour vous faire comprendre ce groupe-là, c'est de l'écouter à l'instant, si vous le voulez bien. Si Léla, tu me donnes
la
permission.
Moi, je le veux bien.
Voilà, et j'ai hâte d'avoir des commentaires par la suite. J'ai cru comprendre que tu étais une grande fan de hip-hop.
De rap... Ben, Kev, Rap Kev, c'est genre vraiment mon sujet préféré, là. Les gens sont un peu tannés que j'en parle tout le temps, mais comme, ouais.
Ben, là, ça va être ton occasion d'en parler à la radio, à des gens qui t'ont jamais entendu en parler. Mais on va écouter ce rap-là plus tard. Pour l'instant, on commence avec un peu plus de rock, un peu plus de guitare, du côté de Military Gun et, dans quelques secondes, Blanc Dehors avec Instinct de survie. Vous écoutez Le Palmarès à Choc.
Là-bas can see you. I can see the knife in hand. Don't feel like bleeding. So I guess this is it. Not so sure.
Et voilà Military Gun qu'on vient juste d'entendre ici même au palmarès à Choc. Un groupe qui me rappelle beaucoup le projet Turnstile. J'avais été tellement fan de l'album Glow On de Turnstile. Peut-être un de mes albums préférés. En fait, c'est assurément un de mes préférés, mais peut-être mon préféré de l'année 2021. J'étais très heureuse de rentrer cet album-là à la station à mes débuts à Choc. Mais voilà, donc Military Gun, un groupe que, Léla, tu m'as décrit tout à l'heure comme étant chaud.
Oui, ben dans le fond, je trouve que comme leur chose qu'ils font, et c'est comme une esthétique, on ressent directement la vibe, c'est comme en mode de nostalgie, je suis un adolescent qui veut quitter la maison et tout. Je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu rebelle dans qu'est-ce qu'ils font, que j'aime beaucoup, tu sais. Puis aussi, ça se ressent dans leur esthétique des vidéoclips, comme allez voir ça, comme tout est bien travaillé, les filters sont on fleek, genre sont on point, puis ben c'est ça, moi j'avais vraiment aimé que l'esthétique se ressent autant à travers leur musique qu'à travers leur visuel, fait. Pour ceux qui ne savent pas, j'étudie en télévision. C'est pour ça que je vais tout le temps regarder les vidéoclips des musiques que j'écoute.
Je parlais de Turnstile tout à l'heure. Je t'invite peut-être à aller voir leur vidéoclip. Il avait fait un vidéo qui dure, je crois que c'est comme 11 ou 12 minutes, où en fait, il avait pris carrément là, 4 chansons de l'album, puis il avait tourné comme 4 petites vidéos qu'il avait mis un à la suite de l'autre. Très léché, très beau, et ça a tellement été un succès. Écoute, le groupe Turnstile avait fini par être en nomination pour des prix Grammy, ce qui avait fait capoter bien des gens dans la scène de punk, et même, il y a une de leurs tunes dans NHL 2023.
Damn, ok, ben j'irai voir ça.
As-tu déjà joué à NHL?
Non, j'ai jamais joué à NHL. En fait, chez nous, quand j'étais petite, on n'avait pas le droit aux jeux vidéo. Voilà, puis genre, moi, quand j'étais au primaire, je voulais absolument avoir une DS, et ma mère voulait pas. À ce jour, j'ai toujours pas eu ma DS. Mais je planifie m'en acheter une très bientôt.
Tu veux vraiment t'acheter une DS? Là?
Oui, juste pour avoir raison, puis pour me dire que je l'ai enfin eu, ma DS 3D, tu sais.
Ah, toi, tu veux la DS 3D, c'est okay, ça, pas oui, le Nintendo DS là, 2004, là?
Ben écoute, je sais pas, je vais regarder sur Marketplace qu'est-ce qu'il y a, puis si jamais je trouve pas de DS 3D, ce qui me tonnerait fortement, mais je me rabattrai sur une petite Nintendo DS, là.
C'était fou, la gimmick 3D avec la Nintendo DS. Ça, c'était au tournant des années 2010. Mm-hmm. C'était, je pense, en 2009 à peu près, qu'est sorti le film Avatar, entre mm-hmm. autres. Il y avait toute une vague gigantesque. On avait l'impression que le 3D, c'était le futur. Tous les films sortaient en 3D, même quand c'était pas vraiment nécessaire, ce qui donnait beaucoup de maux de ventre et de maux de tête à les gens qui allaient voir des films. Ma mère, entre autres, est incapable de regarder des films en 3D. Ça lui donne mal au cœur,
ouais.
En fait.
Oh my God.
Puis il y a comme un pourcentage non négligeable de la population à qui ça fait ça. Puis là, c'était comme la mode, là, tu rentrais dans des magasins, là, dans des Best Buy, dans des Tanguy électroniques. Puis là, c'était comme les télés en 3D. Puis c'était vraiment l'impression que tout allait être de même. On allait écouter les émissions en 3D, on allait écouter les nouvelles en 3D, on allait écouter la guerre des clans en 3D.
Mais
le tricheur surtout... en 3D. Puis finalement, c'est dead. Il y a personne qui a envie de dépenser comme $1 million pour une télévision. Puis t'es obligé de mettre des petites lunettes
ben,
à chaque
c'est
fois.
C'est ça, c'est surtout les petites lunettes que tu mets par-dessus tes propres lunettes. Là, comme ça, c'est un peu mal fait. Là. Ils devraient inventer des lunettes de vue 3D. Moi, je pense qu'on devrait se partir une business là-dessus. Là.
C'est ça, puis en fait, c'est juste pas nécessaire. Moi, je... Tu sais, le 3D, c'est une gimmick qui est amusante. C'est une gimmick quand même là, qui existe depuis très longtemps. Mm-hmm. Là. Les lunettes 3D, on peut voir des images d'archives, là, genre de Time Magazine, qui datent du milieu du 20e siècle avec toutes les personnes avec des petites lunettes 3D dans la salle de spectacle. Là. Mais c'est pas... Je pense que les gens sont juste vraiment tannés. Puis la Nintendo DS est sortie à peu près dans la même époque où tout est en 3D. Puis là, Nintendo s'est dit, ça y est, on fait une Nintendo... console portable, donc avec une option 3D, mais qui ne demandait pas de lunettes. C'était comme un système particulier qui faisait en sorte que tu pouvais avoir du 3D même si tu n'avais pas tes lunettes, tant que tu étais dans le bon angle. Mais il y avait un bouton qui te permettait là, de désactiver la 3D. Mm-hmm. De ce que j'ai compris, ça a été très rapide, puis tout le monde a juste abandonné l'aspect 3D, ça donne rien. C'était juste gossant, en fait.
Oui, là. Mais moi, je veux ma Nintendo.
Ben, c'est pas pour le côté 3D, là. Parce que je pense qu'ils ont sorti à un moment donné des 3DS dans une version qui n'avait pas la 3D, cette espèce de version light.
Ça se peut. Mais honnêtement, je suis pas très au fait de leur petite console portative. Mais oui, je m'en rappelle. Puis moi, je me rappelle surtout que, ben, comme tu parlais, il fallait que tu te places dans un certain angle. Mm-hmm. Puis comme c'était pas la mienne, à chaque fois que je jouais à l'école avec des amis, ben moi, j'étais toujours placée dans l'angle où est-ce que tu voyais rien. Fait que ça perdait toute sa magie, mettons.
Mais voilà, sinon, tu peux tout aussi bien t'acheter une Switch.
Ouais, mais c'est pas pareil. Un côté un peu plus vintage, que je suis comme, oh my god, nostalgie. Alors que comme la Switch, c'est pas tant nostalgique. Tu sais, c'est encore super courant aujourd'hui, mainstream et tout. Fait que je sais pas.
Écoute, si tu veux de la nostalgie, achète-toi un Game Boy.
Ouais, mais je veux une nostalgie que j'ai connue, tu comprends?
Trouve-toi une Wii U. Hey, c'était difficile ces années-là, mon Dieu, pour Nintendo. La 3DS, c'était comme... Ça n'a pas pogné autant qu'ils pensaient, alors que la première DS avait été un immense succès. Puis à peu près à la même époque, il avait sorti la Wii U, qui avait été un désastre monumental, honnêtement. Ça avait vraiment pas bien marché. La campagne de promotion avait pas bien marché. Beaucoup de gens croyaient, puis je suis sûr qu'il y a encore beaucoup de gens aujourd'hui qui croient ça, que la Wii U, c'était juste comme une extension, genre, pour la Wii, alors que c'était une nouvelle console. Puis l'espèce de gimmick, encore une fois, d'avoir l'espèce de... Parce que ça venait avec une manette... Tu sais, t'avais des manettes comme les manettes de Wii qu'on connaît, mais t'avais aussi ce qu'on appelait le Gamepad. Je sais pas c'était quoi le nom en français, probablement la tablette, je sais pas. C'est vraiment ça, comme une grosse tablette, mais avec des gros boutons sur les côtés, puis il y avait un écran dedans. Puis comme ben des gimmicks comme ça, c'était pertinent au début, puis il y avait des jeux qui sortaient qui servaient de la tablette. Il y a des jeux qui sortaient après ça, puis plus ça allait, moins on s'en servait de cette tablette-là, parce qu'on se rendait compte que c'était un peu gossant. Puis tu pouvais pas, comme avec la Switch, tu sais, alterner entre jouer sur la console directement puis jouer sur la télévision. Donc, mais ça avait pas vendu. Les gens comprenaient pas.
Mais moi je me souviens justement le monde qui était comme « Ah, ben reste juste avec la Wii normale, tu vas être bien correct, ça vaut pas la peine d'investir là-dedans. Là. » Mais moi, anyway, j'avais pas de jeux vidéo chez moi. Fait que ça me passait au-dessus de la tête.
voilà. Moi, j'ai une Switch. Puis de toute façon, les meilleurs jeux sur la Wii U, ils ont tous sorti sa Switch, dont Mario Kart.
Oui.
Le jeu le plus vendu sur la Switch...
C'est fou quand même,
c'est
hein?
Mario Kart, mais le Mario Kart qui est sorti sur la Wii U, c'est juste que c'est... Mario Kart 8 Deluxe. Fait comme, t'as les pistes, les circuits, puis les personnages qu'ils avaient rajoutés là, au fil d'extension. Mais sinon, c'est comme, c'est le même jeu depuis 2014. C'est encore le jeu le plus vendu, puis il continue de faire des mises à jour encore aujourd'hui avec ce jeu-là. Il y a des nouveaux personnages, des nouveaux circuits qui devraient arriver comme dans le prochain mois
Mario Kart. Moi, on s'en était déjà parlé, mais je suis tellement nulle à Mario Kart, probablement parce que j'ai pas beaucoup joué quand j'étais jeune, mais comme moi, j'ai tout le temps besoin du booster à la fin, là, comme pour essayer de juste rattraper les autres, puis j'arrive quand même dernière. Fait que, moi, la fusée noire, là, je l'ai à tous les coups, là.
Voilà, en anglais, ils appellent ça le Bullet Bill. J'ai peu joué à Mario Kart en français, donc je sais pas c'est quoi son nom en français, mais voilà, cette espèce de gros boulet de canon qui te ramène et qui te permet de dépasser souvent quelques personnes. C'est de la pratique, c'est aussi simple que cela. Moi, j'ai énormément joué à Mario Kart Double Dash. Ça, c'était au GameCube, quand t'avais deux bonhommes sur ta voiture. Puis après ça, j'ai joué beaucoup sur la Wii aussi.
Tu prends quel personnage?
Ça dépend. Moi, j'ai longtemps pris Daisy. Daisy, mm-hmm. c'est une de mes préférées. C'est ma main girl. Sur Mario Kart, sur la Switch, il y a Isabelle, qui est un personnage dans Animal Crossing, que j'aime beaucoup. Sinon, là, ils ont ramené Birdo récemment via une mise à jour. Et Birdo, c'est un personnage qui est trans. C'est comme particulier parce que l'univers de Mario a juste comme indiqué dans un manuel de jeu mm-hmm. Je crois que c'est en 1991 ou dans ces années-là que Birdo était trans. Puis, tu sais, ils l'ont dit de façon comme un peu problématique, mais basically, ils disaient que Birdo était un personnage trans. Et c'est comme... Ils ont jamais vraiment développé là-dessus, puis on dit qu'ils essaient de faire comme d'oublier cette partie-là qu'ils ont dit ça, parce que c'était un peu de mauvais goût comment qu'ils l'ont amené à l'époque. On s'entend, c'est 91. Mais, écoute, la communauté trans, dès que tu donnes des miettes, nous, on va s'emparer de ça, puis on va décider que c'est terminé. Birdo, c'est une icône trans. C'est à nous maintenant. Elle nous appartient. Et voilà, j'adore avoir Birdo avec son immense boucle dans ses cheveux, sa bague gigantesque au doigt, son... Là, je suis en train de mimer son visage. Si vous connaissez Birdo, vous savez que je suis en train de faire de quoi, puis que ça n'a pas vraiment rapport à ce que je fais avec mes mains. Une espèce de trompe, l'espèce de le truc où elle crache des œufs. C'est bizarre, c'est particulier. Mais voilà, Birdo, c'est ma préf. Je l'aime beaucoup. Et je vais lui dédier les prochaines chansons de Grand Eugène, qui sera, et là, ça c'est un scoop, notre artiste du mois pour le mois de juillet. Vous verrez le groupe sur la pochette de la liste de lecture Bonne Vibration pour le mois de juillet. Également, Grand Gêne sera avec nous autour du... c'est la fin août, je m'en souviens, je me sais plus c'est quoi la date exacte, mais sera avec nous pour une session live et j'ai très hâte. Mais juste avant, je vous l'avais promis, on va écouter La Sécurité avec la chanson Anyway. Tout ça au palmarès, à Choc. We'll be right back. Et voilà, Grand Eugène avec Tout le monde tiré de l'album, ou plutôt du EP peut-être, qui s'intitule simplement Grand Eugène. Léla, qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Grand Eugène?
Ben moi, j'aime vraiment ce que j'ai entendu. En fait, je trouve que ça fait été, mais tu sais, comme l'été qui s'annonce, là, ben, avec la pluie, puis les nuages, puis tout, un été chaud, mais... c'est ça, nuageux, ça m'inspire ce genre de sentiment-là. Je trouve que c'est vraiment agréable à écouter, puis c'est vraiment relaxant, là. Moi, ça m'est dans des bonnes vibes.
Oui, ben, ce sont des très, très bonnes vibes, de très bonnes vibrations, même, je dirais. D'où le pourquoi, ça va être le groupe qui va être sur la pochette de Bonnes Vibrations, la liste de lecture sur Spotify. Allez vous abonner, parce que je travaille fort là-dessus, puis je mérite votre validation. Voilà. Il y a quelque chose de... On dirait que je sens la brise sur ma peau quand j'écoute Grand Eugène, mais il y a quelque chose aussi d'un petit peu Man I Trust, j'ai l'impression, au travers de ce projet-là. Cette espèce donc d'indie pop qui est tellement facile, on dirait, à absorber. C'est tellement léger, c'est tellement... Puis c'est pas parce que c'est léger, c'est pas parce que c'est catchy, parce que c'est accrocheur, que c'est la musique qui est facile à faire, on s'entend. Ça, c'est quelque chose, c'est un grand mythe que les gens réalisent pas. Des fois, derrière des chansons tellement... c'est vaporeuse et qui ont l'air simple à premier regard, il y a tellement de travail, il y a tellement de choses. Ça prend beaucoup, en fait, pour faire quelque chose d'aussi intéressant avec quand même des éléments de pop comme il en existe beaucoup, tu sais.
Puis je trouve qu'il y a une certaine profondeur aussi qu'on retrouve, tu sais, dans comment est-ce que c'est travaillé le son et tout, dans la chanson qu'on vient d'écouter. C'est un bon exemple, tu sais, ça reste super léger, mais on sent que comme ça a été super travaillé, tu sais.
Voilà, il y a des gens derrière, mais l'important, puis ça c'est vrai dans tellement de travail, dans tellement de jobs, tu sais, des fois l'important c'est que ça paraisse pas qu'il y a eu du travail derrière, faut que ça a l'air simple. Alors que ça l'est pas.
C'est comme en danse, en fait. Moi, j'ai fait de la danse contemporaine. Je continue à en faire, mais moins intensément. Puis comme quand on monte sur le stage, quand on monte sur la scène, faut pas que ça paraisse que t'es en train de souffrir parce que t'as ta jambe dans les airs puis que t'es en train de soulever une autre fille en même temps. Faut que t'aies une émotion, faut que t'aies un sourire ou quelque chose qui démontre pas, parce que sinon, ça fait pas professionnel, on dit.
Voilà, quand tu prends ta jambe et que tu la montes jusqu'en haut, faut pas que ça paraisse que il y a des heures et des heures et des heures et tellement d'exercices qui ont été faits pour avoir cette flexibilité-là.
Moi, j'ai déjà vu des filles avec une interprétation incroyable sur stage sortir en boitant. Elles étaient plus capables de marcher. Comme elles étaient en pleine souffrance de comme des blessures et tout, puis elles étaient plus capables de sortir. Mais tout le long de leur prestation, on l'a jamais aperçu. Fait que, tu sais, je pense que un travail bien fait, c'est un travail, comme tu disais, là, où est-ce que, ben, on voit pas le travail qu'il y a derrière.
Cela dit, on souhaite le moins de souffrance possible aux amis de Grand Eugène. Et, tu sais, c'est important aussi de pas oublier qu'on a des limites comme être humain, puis que, tu sais, c'est cool de vouloir se dépasser, puis tout, mais faut le faire avec un respect de soi qui est important. Ne dépassez pas vos limites simplement pour les dépasser.
Ben non,
voilà.
Clairement
respectez-vous,
pas.
Respectez votre corps, respectez votre... votre charge mentale, et prenez soin de vous.
Ben oui,
buvez
parce
de l'eau.
Une passion, ça reste une passion, mais si on veut continuer à en faire longtemps, faut quand même se respecter là-dedans.
Et voilà, ben c'est ça. Puis il faut aussi respecter les gens qui font ces passions-là. Faut respecter les enfants qui font du sport et respecter les gens qui travaillent pour ces enfants qui font du sport.
Mm-hmm.
Voilà, c'était ma chronique pour envoyer chier tous les parents qui gueulent après des arbitres puis des coachs. Vous êtes de mauvaises personnes et vous méritez de souffrir.
Ah, ben, je sais pas à quel point.
non, mais vous êtes de mauvaises... Pour vrai, les...
Mais en même temps, si toi aussi tu devais te lever à 6h du matin pour aller porter ton kid à l'aréna ou bedon au terrain de soccer pour qu'il puisse se pratiquer, puis tu l'attends sur le bord, puis moi aussi je serais un peu aigrie par la vie, je vais pas te mentir.
C'est une chose d'être aigrie, mais c'en est une autre de pas respecter les limites de ses enfants.
Non,
déjà, de penser que parce que toi... tu t'es rendu loin dans le monde du sport, ben clairement, ton fils, c'est le prochain Maradona. C'est la prochaine Marie-Philippe Poulin. Comme, faut se calmer avec ça. Puis c'est un problème en ce moment. C'est de plus en plus difficile de trouver des entraîneurs, de trouver des arbitres,
oui, effectivement,
pour travailler dans le monde du sport. Parce que...
Mais c'est une vocation, là. Il faut avoir beaucoup de dévouement pour ton sport, beaucoup de dévouement pour comme les athlètes. Fait que c'est sûr que c'est difficile à trouver. Puis...
Ben, ce qui est dur, c'est les parents, en fait. C'est que ce sont des gens qui travaillent très fort. Tu sais, je lisais le cas, entre autres, de, je crois que c'est Stéphane Robida, qui est un ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, qui est devenu entraîneur, puis qui se faisait constamment bâcher par des parents qui croyaient, eux, naïvement, qu'ils savaient plus que lui quoi faire. Puis Stéphane Robida, aujourd'hui, comme, a gravi des échelons dans le monde de l'entraîneur, puis c'est une personne de confiance dans le milieu. Mais tu sais, t'as des parents qui ont tellement aucune idée, qui veulent tellement pas comprendre, puis qui comprennent pas pourquoi leur petit gars, c'est pas le prochain Sidney Crosby, puis clairement, c'est de la faute de l'entraîneur. Puis tu sais, il y a le phénomène, on parle beaucoup là depuis de très nombreuses années, de comme, ah, la nouvelle génération, c'est toutes des enfants rois. Puis je veux dire, j'ai l'impression que ça fait comme 40 ans qu'on dit que la nouvelle génération, c'est des enfants rois. Mais c'est pas les enfants qui sont des rois, puis c'est pas les enfants le problème, ce sont les parents qui prennent comme des parents rois, qui pensent que leur fils, que leur fille, c'est des petits princes, des petites princesses, puis qui demandent toute l'attention, puis qui refusent de comprendre que des fois, ben, ton kid, il est là pour avoir du fun, de un, tu sais. Puis de deux, ben, ça se peut que ton enfant, il soit pas le meilleur de l'équipe, puis c'est correct, tu sais, puis ça se peut que...
T'sais, les enfants sont des enfants et je pense pas qu'ils considèrent en fait une grande carrière devant eux. Ils veulent juste comme jouer puis avoir du fun. Puis le sport à cet âge-là, c'est un jeu pour eux. Fait que, tu sais, des fois aussi les laisser juste jouer, je pense qu'ils comme.
Puis c'est l'arbitre qui a 14 ans, là. Ça se peut qu'il l'ait pas vu à l'autre bout de la glace, que peut-être que c'était hors-jeu ou que peut-être qu'il y avait obstruction. Ou que... Je veux dire, tu sais, il a 14 ans, il a aucune expérience. Peux-tu bien le laisser faire? Ton enfant est pas à un accrochage, il est pas à un avantage numérique de faire la Ligue nationale. Puis c'est un gros problème, puis je pense que c'est important d'arrêter de parler d'enfants rois, mais de parler des parents rois, puis de parler de mettre le blanc sur eux autres, parce que c'est de leur faute en ce moment ce qui se passe. C'est pas à cause des enfants, au contraire. Puis ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'il y a des ligues qui se disent, est-ce qu'on devrait pas avoir des matchs à huis clos? Est-ce qu'on devrait pas interdire aux parents...
Ben, les cours de natation, quand j'avais fait mes formations à Laval pour être monitrice, nous, on disait, vous acceptez pas les parents sur le bord de la piscine dans vos cours parce que les parents, ils veulent que aller voir leurs enfants puis ça peut devenir dangereux, tu sais, parce que, ben, c'est dans le milieu aquatique. En tant que sauveteur, il faut qu'on fasse attention à la sécurité de tous. Puis, il était comme, vous devriez pas accepter les parents sur le bord de la piscine parce que les parents, ils veulent tout le temps juste aller comme, après, j'aurai enfant, leur enfant, oui, mais mon enfant, nanana. Fait que, tu sais, ouais, non, honnêtement, je sais pas à quel point pour une patinoire ça s'applique, mais,
Ben, c'est parce qu'il y a des gradins autour. Tu sais, souvent dans les piscines, il y a des... Tu sais, moi, en tout cas, lorsque j'avais des cours de natation, tu sais, t'avais une espèce de local en haut avec des fenêtres qui mènent sur... Mm-hmm. Là, tu peux voir de là-bas qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais dans un match de hockey, je veux dire, il y a des gradins, puis il y en a plein, là, des parents qui vont venir crier. Ou, tu sais, un stade de baseball... là, je dis stade, mais si vous avez vu là, souvent des terrains de baseball, comment que c'est placé. T'as le terrain, t'as une clôture.
Puis t'as les parents avec les chaises de camping qui sont tout le temps bien installées.
Ils sont en train de crier. Au soccer aussi, ça arrive. Faut se calmer. Faut se calmer.
Mais oui.
Faut se calmer. Faut juste calmez-vous. Tout va bien aller. On est ici pour avoir du plaisir. Et si vous avez besoin de vous calmer, ben écoutez Grand Eugène. Parce que moi, ça me détend beaucoup, cette musique-là. Ça met dans une...
Bonne vibration?
Ça met de bonne humeur, je pense, cette musique-là. Je trouve ça un peu réducteur de dire « Oh, c'est la musique à mettre de bonne humeur. » Mais c'est vrai que j'écoute ça puis je me sens mu. On dirait que c'est un... C'est peut-être même un baume, je pense.
Mm-hmm, exactement.
C'est comme un lipsil pour mon âme. Voilà, mais là, on va continuer avec le hip-hop.
Oui!
Ce nouveau style de musique à la mode.
Yes.
Les jeunes parlent sur le rythme et font le breakdance sur les boîtes Le Carton.
Ça, c'est moi qui fais le breakdance sur les boîtes Le Carton.
Du graffiti. J'en profite, j'ai déjà fait à l'émission, mais juste le rappeler parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la différence entre les deux. Puis je pense que c'est en répondant à cette question-là que j'ai réussi à rentrer dans mon programme de journalisme à l'époque, lors de mes entrevues de sélection. La différence entre le rap et le hip-hop est pas claire pour tout le monde et pourtant, elle est facile à comprendre. Le rap, c'est la technique de chant.
Mm-hmm.
Le hip-hop, c'est un style qui comprend de la musique, mais qui comprend aussi de la danse hip-hop, de l'art hip-hop. Mais voilà, le style, c'est du hip-hop. Du hip-hop instrumental, ça existe. Il y en a du hip-hop instrumental, des gens qui font des beats, qui font des choses avec ça. Du rap instrumental, ça peut pas exister, parce que par définition, du rap, c'est quelqu'un qui émet des sons pour dire des mots, tu sais. Ça va ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a du rap dans des styles de musique qui sont pas du hip-hop. Fut une époque... Surtout au début des années 2000, où c'est très à la mode d'avoir comme du métal ou du gros rock, mais avec du rap par-dessus.
Ouais.
Tu sais, c'est pas parce que Snoop Dogg apparaît dans ta chanson aussi que California Girls de Katy Perry, c'est automatiquement du hip-hop.
Effectivement.
C'est une tune de pop, mais c'est juste un rappeur. Il y a Florida qui débarque à un moment donné, qui fait un verse. Il y a Pitbull qui débarque puis qui fait un verse. Puis voilà, mais nous, on veut écouter du hip-hop, on veut écouter du rap, on veut écouter toutes ces choses-là. On va écouter deux artistes que tu avais envie d'entendre déjà.
Oui.
Léla, il y aura les copains de Dope Gang qu'on avait reçus en session live à la toute fin de l'année 2022. À l'époque, ils étaient sur le point de sortir leur EP. Et je sais pas ce que les lettres veulent dire encore, j'ai l'impression que c'est un mystère qui va être élucidé bientôt. Ils venaient de sortir leur EP NRNTB Rouge.
Tu peux aller demander à Urban Dictionary si tu veux.
Peut-être, mais j'ai l'impression que c'est un acronyme pour un album à venir. Parce que là, c'est la version bleue qui est sortie.
OK.
Maintenant, le NRNTB, barre en bas bleu.
OK, fait que
c'est ça qui est rentré au palmarès. Je pense que ces lettres-là veulent dire quelque chose. Je pense que, tu sais, le rouge, le bleu, peut-être qu'il y aura une autre couleur éventuellement. Ça veut tout dire quelque chose éventuellement. Mais pour l'instant, on sort ça petit bout par petit bout. C'est des EP de 5 pièces. Et là, la pièce qu'on va écouter, ben, c'est une chanson qui était sortie quand même il y a quelques temps qui s'appelle Sticky. Et que j'ai beaucoup aimé. J'ai eu la chance d'ailleurs d'aller au lancement de Rouge à la fin de l'année 2022. Je suis monté sur scène quand ils ont fait la chanson Brûler les condos. Parce que voilà, Brûler des condos, c'est une chanson que moi, personnellement, j'approuve. Voilà. Ça ne reflète pas l'opinion de toutes les personnes qui travaillent à la station, mais moi, je suis bien fan de la chanson qui dit qu'ils veulent brûler des condos. Mais une chanson qui risque de faire peut-être un peu plus consensus, ou en tout cas moins fâchée, Sophie Durocher, qui était très, très, très fâchée contre brûler des condos. Elle était vraiment, elle était en bourgeois de vert. Ah, mon Dieu, elle voyait rouge. C'est Eman, membre, évidemment, de À la claire ensemble. Ben, évidemment, il y a des gens qui le savent pas, puis c'est correct aussi. Qui était également dans le duo Acrophone, qui fait de la musique aussi, Eman avec Vlooper. Je me demande s'il n'était pas dans Mauvaise Herbe aussi, parce que tout le monde était dans Mauvaise Herbe à un moment donné.
C'est vrai.
Bref, beaucoup, beaucoup de gens. Karim Ouellet était dans Mauvaise Herbe aussi. Je pense que Claude Bégin était là. Ken Lo était là. Il y avait beaucoup de gens. Pour vrai, ils sont partis d'une gang dans un chalet. Ils ont reçu un album.
Ils font plein de projets.
Voilà, c'est ça. Ben, c'est ça, les copains de la classe ensemble. Ils font beaucoup de choses. Et maintenant, il fait paraître lui aussi un album de rap, de hip-hop. Il y a de cela pas si longtemps que ça. Le pouvoir de l'esprit est infini, si je me trompe pas, le nom de l'album. Me semble c'est ça.
C'est ça.
Voilà, pouvoir de l'esprit est infini. Ben oui, c'est ça. J'étais plus tout à fait certaine, mais oui. Voilà, on va écouter la pièce finalement. Si ça te convient.
C'est bon, ça? Moi, ben oui. moi, je suis très d'accord.
Yes, on écoute ça à l'instant. Vous écoutez Le Palmarès à Choc.
J'en veux d'énergie. J'ai que l'amour qui émerge. J'ignore ce que tu penses, je me dis merci. J'fais down, ben j'fais up. L'épreuve est grande, mais peu importe. J'ai trouvé la clé, puis ouvrir la porte. Tant que j'chante, tout est par un pote. J'regarde les autres dans le game, puis j'suis même pas à quoi ils jouent. Oh. Deux ans des cash, c'est sûr, on se pose où. Deux différents, mais le but est le même. Pour s'en sortir, faut empiler des reins. But I'm insane. Quelques motifs, je sais que tu honnêtes. Je pouvais pas rester dans le tu sais. Je me disais qu'on était fait pour la musique. Tout le monde focus sur les trophées. Ils voient pas le travail, ça fait 20 ans qu'on fait. Là, on s'acharne parce qu'on veut rester libre. Pas avec tout ça, toutes ces années pour retourner des. J'ai des bons coups, j'ai des faux. Oh, des qualités, des défauts. Oh, j'envie pas les autres. Non, j'ai un trésor inestimable. Puis j'suis pas du gold. Hey. Baby, you know. Oh, never gonna know. Oh, let it go. Yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah, yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah. Finalement ça le fait, yeah, 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 yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah, yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah. Finalement ça le fait, yeah, yeah. Finalement ça le fait,
yeah, yeah. I don't wanna be close to my enemies. Keep a smile, they test me. I don't wanna get a felony. This is how we do it, gangsta me. Roll it down, we rollin' up.
two cars and two trucks. Not the same, but different shades. Okay, this is our plan. I be playing my games every time I be thinking about you. Whoa, follow my jeans, boobs is you. Whoa, I control your mind, they coach my mind. Yeah, I control your mind, they coach my mind. Yeah, I'm built different, but I'm the same. Stay in my lane, where you calling my name? Drive so fast, I feel like Super Saiyan. Walking alone, I be catching the rain. All these girls be playing these games. I in my car, I be switching my lane. Crossing my brain, it be causing the pain. Ever since I was a kid, I be facing these things. Too many phones on the road, oh. Walking around like a ghost, oh. Walking the snow, oh. That's the treasure that we never found, yeah. We never gonna know. Take it slow, let it go, let it go.
Jamais juste nous deux. Blow out des bougies, fais un vœu. Je veux mourir, je sens.
We're tripping and dripping.
Ben oui, toi, on sirote jusqu'à ce que ça soit collant sur le plancher. Voilà, ce qu'on vient d'entendre, donc Dope Gang avec Sticky, chanson qui me rappelle les belles années de Hyperpop et de PC Music, une étiquette de disque qui était très importante pour mon propre développement musical. Mon Dieu, c'était très très cool, PC Music. Mais là, on a appris d'ailleurs cette semaine que cette étiquette de disque-là allait tirer sa révérence cette année, après 10 ans, qui a été fondée au Réunion en 2013, qui a été extrêmement influente avec des artistes comme AJ Cook, avec Danielle Harle, avec Girlfriend of the Year, avec Hannah Diamond. Il y avait Sophie aussi qui s'éteint, cette gang-là. Charlie XCX s'est ramassé dans cet univers-là. Bref, quand vous entendez ce genre de cling-clang-là électronique qui a inspiré d'autres groupes par la suite, comme 100 Gex ou comme, de toute évidence, nos amis de Dope Gang, ben voilà, ça vient un peu d'eux autres. Et on a appris récemment que c'était la fin pour PC Music. Ça me fait de la nostalgie déjà de comprendre que, hey, ça fait 10 ans déjà.
C'est fou.
Cette gang-là de PC Music. Il y a 10 ans déjà, j'étais sur le divan de chez mes parents avant un cours à l'université, à regarder la liste de fin d'année de Pitchfork, à découvrir la pièce Bip de Sophie et d'être complètement aspiré dans le monde de la musique. PC Music qui éventuellement là, va obtenir le nom de Hyperpop via les plateformes d'écoute en continu. Voilà.
Il y a 10 ans, moi, j'étais au primaire, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, voilà. Moi, il y a 10 ans, il y a 10 ans, en fait, je faisais mes premières armes à la radio universitaire de l'Université Laval, chez 94.3. À l'époque, je faisais l'émission qui s'appelait La Couffaine. Après ça, j'ai commencé ma tasse de thé là-bas. Puis après ça, ben, je suis parti pendant un an travailler en Écosse, mais ça, c'est une histoire pour un autre moment. Nous, on va terminer ça avec nos numéros 1 de la semaine. Il y aura Epiroura avec la chanson « Or aux dents 2 ». Ça, c'est tiré de l'album « Exposition individuelle ». Juste après, on aura Maten avec la pièce « Nitoa Siminan ». Ça, c'est leur album « Utenat ». Et c'est là-dessus qu'on se quitte. On se retrouve la semaine prochaine. Non, c'est pas vrai du tout, que dis-je. Il n'y aura pas de palmarès la semaine prochaine parce que je m'en vais à la noce. Mais il y aura d'autres palmarès bientôt. OK, voilà, c'est tout. Au revoir. Bye.
Wish you could be what my town. Shop and twitch my tea and look at the queen. What do you teach the tea out? Jim do I sing? Just ran on the night of the town. She got a mini show. That day when just ran on the this